Lettre à Élise, marche au pas. Ma très chère Élise, il y a 4 jours que je ne t'ai pas écrit. Rassure-toi, tout va bien, et la campagne électorale est totalement éveillée à présent, comme partout je le crois. Il faudra d'ailleurs que je te parle à l'occasion de messages que je reçois et qui évoquent déjà, pour le second tour, des alliances improbables. Ce week-end, je suis passé sur le marché. J'avais oublié à quel point il m'était essentiel, peut-être parce qu'il m'évoque celui que je traversais le samedi, petit bonhomme de 10 ans, fraîchement entré en classe de 6e au lycée de Longwy. Il était sur ma route du retour, presque au pied de la Grimpette, et pour gagner la gare routière, je devais parcourir cet île au trésor à l'heure où on y démontait les étals. J'y ramassais de belles poignées de ces grands élastiques qui jonchaient le sol et qui me serviraient à quelques jeux que nous partagerions avec les autres mômes de la rue. Mais voilà que la nostalgie m'égare, ma chère Élise. En fait de trésor samedi, je n'ai trouvé à emporter, outre mes victuailles, que quelques images. En arrivant par la rue du Duc de Bouillon, j'ai aperçu par exemple un petit attroupement autour d'un étal sur le bord de la place. Monsieur Guy jouait les batteleurs sous le regard morne d'une poignée de ses colistiers. Il improvisait, m'a-t-il semblé, quelques tirades à l'adresse du marchand figé derrière son éventaire. En fait, c'est à la caméra plutôt qu'à l'assistance qu'il réservait ses postures. Quant aux propos, c'est au gros micro en mitouflé au-dessus de lui qu'il le destinait. Tout cela est finalement bien factice. Il s'agissait, je ne l'ai appris que plus tard, d'un reportage pour les informations sur la 2. Je ne puis t'en dire davantage, je n'ai pas eu le temps de le visionner. Mais peut-être toi en as-tu eu l'occasion, en tout cas, ce que j'en ai lu sur les réseaux sociaux ne m'a guère fait envie. Ce qui m'a surtout frappé dans cette scène, c'est le silence et la raideur du groupe des colistiers. C'était ce même silence et cette même raideur qui nous ont servi, à quelques exceptions près, tout au long de chaque conseil municipal. Tu l'avais constaté toi-même à chacune de tes visites. Sous l'air de M. Guy, grand maître des séances, le conseil municipal n'était que la chambre d'écho de décisions déjà prises. L'opposition n'y avait pas d'autre rôle que celui de clamer en vain son opposition, cependant que la majorité y méditait la parole du maître dans un silence religieux, sauf, bien sûr, quelques zélateurs qui, de temps à autre, agitaient l'encensoir. Cette image de la vanité de ces assemblées m'est revenue brutalement à l'esprit il y a peu, lorsque j'ai entendu parler de l'affaire du congé de 12 jours pour le deuil d'un enfant disparu. Je pense que cette histoire est venue jusqu'à toi aussi. Elle a fait tant de bruit qu'on en a oublié un instant le coronavirus et que M. Macron lui-même s'en est ému. C'est une affaire qui m'a d'abord stupéfié, puis navré. Perdre un enfant est sans aucun doute la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, et comme nombre de Français, je peine à imaginer qu'un député ait pu voter contre la proposition d'un congé destiné à aider des parents complètement détruits à reprendre un peu de souffle. Non pas à faire leur deuil, pour cela leur vie n'y suffira peut-être pas, mais juste reprendre un peu de souffle. Qu'un député n'ait jamais été confronté à la situation, qu'il ne se soit jamais intéressé à la législation en la matière, je peux l'entendre. Mais lorsque la question lui est directement posée, qu'il ne peut donc plus ignorer la tragédie qui se joue dans les familles concernées, et qu'on lui demande de voter pour ou contre la proposition de ce congé de 12 jours, comment peut-il alors décider de voter non ? C'est sans doute qu'il ne décide plus lui-même, et qu'il laisse son groupe prémâcher sa pensée. Et quand le chapitre n'est composé, comme l'est le groupe En Marche, que de novices ou de défroqués de partis politiques qu'ils ont contribué à ruiner, son credo commun risque bien de se limiter à « le gouvernement donne le la et nous chantons sa parole en chœur ». Ainsi, si les gourous de la Macronie chantent qu'il ne faut en aucun cas augmenter le coût du travail, un congé supplémentaire qui coûte aux entreprises, même s'il répond aux meilleures raisons du monde, ne sera pas considéré comme pertinent. Le groupe des présents de La République En Marche a donc voté en cœur le rejet de ce congé. Enfin, pas tout à fait. Trois de ses membres ont tout de même préféré le cœur. Cette discipline de groupe, je la connais depuis longtemps. Je suis élu, tout mandat confondu, depuis 22 ans. Tu le sais, ma chère Élise. Et il est arrivé parfois, je le reconnais volontiers, que je me sois laissé emporter par elle. Elle est utile, lorsque l'action est collective. Mais il ne faut pas pour autant laisser de côté tout sens critique. Les décisions collectives s'imposent dans l'action, mais à condition que chacun ait pu influer sur elles et qu'il ait donc participé au débat. Dans la réalité, c'est loin d'être toujours le cas. Sais-tu qu'il est arrivé qu'une conseillère municipale des Amis de M. Guy m'ait remercié un soir d'une de mes interventions ? « Je suis contente que vous ayez dit cela, » m'avait-elle chuchoté. « J'aurais aimé pouvoir le dire, mais vous comprenez. » Et elle avait bien sûr voté avec M. Guy et contre ce qu'elle aurait pourtant aimé dire. Ce soir-là, j'avais hoché la tête d'un air entendu. Mais je crois aujourd'hui que j'aurais dû lui répondre que non. Je ne comprenais pas, non pas qu'un élu puisse accepter un compromis, mais qu'il se laisse aveuglément soumettre par une discipline de groupe. Cette discipline n'aura d'ailleurs guère réussi au bout du compte à M. Guy. Sur la fin de son mandat, un carteron d'adjoint et de conseiller, dont certains rêvaient peut-être d'un destin, a fini par faire sécession et cause commune avec les macroniens de la ville. Je gage qu'il tente aujourd'hui de recomposer autour de sa personne un nouveau chapitre qui fera vœu de silence, un nouveau chapitre Godillot, avec entre autres le carré des élateurs qui lui restent fidèles et les quelques défroqués que j'évoquais dans une lettre précédente. Mais c'est une autre saga, dont on tournait une des premières scénettes samedi matin sur le marché d'Evreux. Lorsque nos concitoyens m'avaient confié mon premier mandat, je me souviens qu'un ancien m'avait lancé cette phrase provocante « N'oublie jamais que le pouvoir d'un élu, c'est celui de sa grande gueule. » En d'autres termes, c'est le poids de sa parole que renforce son travail et la confiance du peuple qui permet à chaque élu d'influer sur l'action collective. Alors, quand il se tait, ou qu'il ne fait qu'encenser aveuglément un maître. Bien à toi, très chère Élise.